Sous votre gouvernement, la canicule s'est transformée en violence politique.
C'est la première fois que je sors de mes gonds.
C'est le dépôt de la motion de censure.
Que je voterai une motion de censure le jour où il y a une majorité alternative pour gouverner la France.
Pour autant, je ne suis pas sûre que la motion de censure soit l'outil le plus adéquat dans la situation actuelle.
Je trouve qu'il y a une forme d'obscénité.
On va laisser Mme Châtelain gérer sa difficulté relationnelle avec le gouvernement.
Sébastien Lecornu qui pète les plombs. Une motion de censure écolo insoumise qui n'a aucune chance d'être votée. Et le plan clim bidon du Rassemblement National. C'est le sommaire de ce bonbon de Serge numéro 156 avec une voix esquintée par la clim. Je compte sur votre indulgence. C'est lundi qui vient que sera examinée la motion de censure déposée par les écologistes et la France insoumise. Une motion de censure qui, à certains égards, donne le sentiment d'avoir été improvisée après un éclat du Premier ministre. Mardi passé, lors de la séance des questions au gouvernement, Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste, interpelle sans ménagement le Premier ministre sur la canicule.
Tous nous endurons la chaleur, mais il y a ceux qui en souffrent, il y a ceux qui en meurent. Et cela encore, c'est votre responsabilité. 33 000 décès entre 2014 et 2022 dus à la chaleur et vous n'avez rien anticipé. Pire, votre politique a affaibli nos défenses collectives et a tout empiré. Ce sont des classes où il y a 33 élèves qui s'entassent alors qu'il fait 36 degrés. Des hôpitaux saturés, surchauffés ou des nouveau-nés convulses. Des funérariums qui refusent des corps, des personnes âgées, des malades en psychiatrie qui aujourd'hui meurent de déshydratation et de solitude. Des familles entières entassées dans des bouilloires thermiques où parfois il fait plus de 40 degrés. Sous votre gouvernement, la canicule s'est transformée en violence politique.
Sébastien Lecornu laisse alors éclater sa colère.
C'est la première fois que je sors de mes gonds parce que mon dernier argument est celui-ci. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Un mort est un mort de trop. Mais de grâce, si votre formation politique, qui est un parti de gouvernement, ne fait pas confiance à Santé publique France, ne fait pas confiance à l'administration sanitaire du pays, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc de grâce, madame la présidente, un peu de dignité et de responsabilité.
Quelques instants plus tard, Cyrielle Châtelain déboule devant les caméras, celle des quatre colonnes. Visiblement estomaqué par la fureur du locataire de Matignon.
Aujourd'hui, nous devons mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Cette réponse le démontre. Ce gouvernement est incapable d'une remise en question et finalement de mettre en œuvre la politique dont on a besoin. La seule manière aujourd'hui que nous avons pour mettre la responsabilité du gouvernement en jeu, c'est le dépôt de la motion de censure. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous trouverons un nombre suffisant de députés qui veuillent censurer ce gouvernement. Je pense que la situation qu'il y a aujourd'hui dans nos écoles, dans nos hôpitaux, démontre qu'en fait nous avons un gouvernement qui est en incapacité de gérer, qui n'a pas anticipé, qui ne gère pas. Et je dirais la faute ultime, c'est qu'on sait très bien qu'on va avoir une nouvelle vague de chaleur dans quelques jours. Il n'y a aucune annonce, aucune adaptation.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette proposition n'a pas déchaîné les enthousiasmes, y compris dans son propre camp. 6 députés écologistes n'ont pas signé la motion de censure, dont Delphine Bateau.
Je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse de la politique politicienne sur cette situation. L'heure des comptes viendra. Le gouvernement a clairement été défaillant. Mais là, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y ait une mobilisation générale de la République pour qu'on n'ait pas à nouveau des morts.
Je voterai une motion de censure le jour où il y a une majorité alternative pour gouverner la France. Apparemment, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas.
Chez les députés socialistes, les rares qui se risquent à affronter les micros se montrent réservés. En gros, ce n'est pas le moment.
Il y a eu évidemment une inaction climatique depuis des années et je pense qu'elle mérite d'être sanctionnée. Pour autant, je ne suis pas sûre que la motion de censure soit l'outil le plus adéquat dans la situation actuelle, à l'aune d'un débat présidentiel qui, je l'espère, remettra au cœur du sujet cette question des investissements immenses que l'on doit faire en termes de transition écologique et qui ont été complètement annihilés par la crise budgétaire qui a visé à supprimer beaucoup de crédits en la matière. Donc, je pense qu'il faut reporter le débat, enfin il faut reporter bientôt au débat présidentiel qui est dans quelques semaines maintenant.
Jeudi, en réunion de groupe, Olivier Faure, le premier secrétaire, a plaidé en faveur de la censure. Boris Vallaud, le patron du groupe des députés, y serait hostile. Étonnant, non ? Quoi qu'il en soit, le PS devrait prendre sa décision définitive ce week-end. Le groupe écologiste ne compte que 38 députés. Or, pour déposer une motion de censure, il faut 58 signatures. Il en manquait donc 26, en comptant les députés écologistes hostiles à la motion. Les députés insoumis sont alors venus à la rescousse, apportant les paraphes qui faisaient défaut. Une amabilité qui en vaut une autre. Dans un mail interne, mercredi, la présidente du groupe écologiste, accompagnée par 8 députés, 2 sénateurs et 1 député européen, fait le constat que la primaire est asphyxiée par les querelles intestines du PS. Les 13 parlementaires appellent leur mouvement à sortir du tête-à-tête avec le PS et à lancer des discussions avec LFI et le PC sur des bases claires et partagées. Ce rapprochement avec les Insoumis est une pierre dans le jardin de Marine Tondelier, car pour l'heure, l'option d'une primaire de la gauche, hors LFI, est toujours d'actualité, même si plus personne n'y croit. Dans ce théâtre d'ombre, les macronistes n'ont pas été les derniers à se donner en spectacle.
Je trouve qu'il y a une forme d'obscénité de la part d'un groupe politique qui a été condamné par pour inaction climatique. Je rappelle que la condamnation sur l'inaction climatique de l'État s'apporte sur la période 2013-2018 et que le gouvernement Macron a permis justement de corriger cette condamnation parce que ces gouvernements ont rattrapé le retard en matière de baisse de gaz à effet de serre. Ça, c'est juste pour remettre le factuel au milieu du village.
Puisqu'il s'agit de remettre le factuel au milieu du village, allons-y. En 2021, la France a été condamnée par le tribunal administratif de Paris pour ne pas avoir respecté les objectifs 2015-2018 fixés par la stratégie nationale bas carbone. On est donc à cheval sur la fin du quinquennat Hollande et du premier quinquennat Macron. Les ministres concernés sont dans l'ordre chronologique Ségolène Royal, Nicolas Hulot et François de Rugy. Agnès Pannier-Runacher raconte donc n'importe quoi. Elle associe indûment les écologistes à l'action de 3 ministres, dont 2, de surcroît, étaient macronistes, comme elle. Mais la mauvaise foi ne s'arrête pas là.
Puis la deuxième chose, c'est que le sujet aujourd'hui, c'est d'agir. Et agir, ce n'est pas voter contre la loi climat-résilience, comme ils l'ont fait. Ce n'est pas critiquer le fonds vert, comme ils l'ont fait. Ce n'est pas empêcher de développer de l'énergie nucléaire, comme ils l'ont fait. C'est vraiment accélérer et accélérer de manière transpartisane. Donc les hypocrites d'extrême droite et d'extrême gauche qui viennent de découvrir qu'il y avait du dérèglement climatique et qui n'ont pas soutenu l'action de différents gouvernements, et je pense que ça date encore d'avant, je rappelle le Grenelle de l'environnement, où beaucoup de choses étaient, c'était un gouvernement de droite à l'époque, n'ont pas soutenu ces démarches. Ce sont des hypocrites. Et aujourd'hui, c'est indécent d'appeler à cette motion de censure. C'est de la politique politicienne. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'action. Et j'espère enfin un petit peu de convergence sur les politiques. Si le fonds vert est formidable, augmentons le fonds vert.
Augmenter le fonds vert. Quelle bonne idée! Le gouvernement a quasiment divisé par 4 son enveloppe. Elle est passée de 2,4 milliards en 2024 à 674 millions cette année, si l'on tient compte des crédits gelés. Nul doute que l'ancienne ministre est prête à descendre dans la rue pour protester. Le Rassemblement national ne votera pas la motion de censure. Sébastien Chenu l'a indiqué mercredi.
On ne va pas rendre service à Mme Châtelain qui veut déposer une motion de censure pour essayer de masquer ce qu'elle n'a pas fait, ce que son groupe n'a pas fait. Moi, je pense que le vrai rendez-vous, motion de censure ou pas, c'est plutôt la rentrée avec le budget. On ne s'interdit rien, on va laisser Madame Châtelain gérer sa difficulté relationnelle avec le gouvernement et probablement même avec son propre parti politique, puisque j'ai cru comprendre qu'elle avait aussi beaucoup de choses à gérer de ce côté-là.
La motion de censure est donc promise à l'échec, puisque sans les voix du RN, les oppositions ne peuvent atteindre les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. Mais ce n'est pas grave, car pour lutter contre le réchauffement climatique, le Rassemblement national a un plan. Le plan clim. Nous avons demandé à Jean-Philippe Tanguy de nous synthétiser les propositions de ce document qu'il venait de présenter à la presse.
D'abord, la priorité donnée à l'accueil des publics fragiles, les établissements, les crèches, les établissements scolaires, les EHPAD, les hôpitaux et une partie des transports publics, avec un premier enveloppe de 10 milliards via des prêts verts. L'État prendra en charge les intérêts et le capital sera remboursé par les différentes institutions concernés, ça c'est sur le premier mandat. Sur le deuxième mandat, pour la climatisation de l'ensemble des établissements accueillant du public ou là où travaillent les fonctionnaires, ainsi que la fin des transports publics, une deuxième enveloppe de 10 milliards. Donc l'ensemble des établissements publics seront climatisés en seulement 10 ans. Deuxième aspect du plan qu'on avait déjà présenté cet automne à travers ce qu'on appelle 100% Rénov, c'est que la climatisation sera inclue dans les 20 milliards par an d'encours de Prévert que nous consacrons à la rénovation des bâtiments, et c'est l'État qui rembourse les intérêts à hauteur de 600 à 700 millions d'euros par an, contre la prime Rénov aujourd'hui qui coûte entre 5 et 7 milliards d'euros selon ce qu'on compte dedans. Et troisième aspect, c'est une proposition pour tous les foyers français qui veulent climatiser une ou plusieurs pièces. C'est un prêt à taux zéro coûtant seulement 20 euros par mois pour climatiser en urgence leur logement.
Vous n'avez pas tout compris ? C'est normal, c'est fait pour. Et puis les journalistes sont paresseux, comme nous l'a gentiment rappelé Jean-Philippe Tanguy à l'ouverture de sa présentation. Le Rassemblement National annonce fièrement que ce plan mobilisera 40 milliards d'euros. Bigre ! La subtilité, pour ne pas dire le tour de passe-passe, c'est que cet argent sortira tout droit de la poche des Français, car ce que propose le RN, ce ne sont pas des financements, mais des prêts à taux zéro. C'est un peu l'histoire du gars qui dit à son copain « Prête-moi 200 euros, je t'invite à dîner ». Ainsi, si vous rénovez votre logement de fond en comble, en incluant l'installation de pompes à chaleur réversibles, le prêt à taux zéro sera sans limite de temps. Si vous n'installez que la climatisation, le prêt courra sur 10 ans à hauteur de 20 euros par mois. Il sera accessible sans condition de ressources. Les collectivités locales seront logées à la même enseigne. Elles ne recevront pas un centime de l'État, mais elles pourront souscrire des prêts à taux zéro pour équiper les crèches, les établissements scolaires, les hôpitaux, les EHPAD et une partie des transports publics au cours d'un premier quinquennat. S'il leur reste de l'argent, elles pourront équiper lors d'un second quinquennat les services publics, les bureaux des agents, les bâtiments et espaces recevant du public et la partie restante des transports publics. Avec quoi l'État financera-t-il les taux d'intérêt à 0% ? Avec la TVA perçue sur les équipements achetés par les Français et les collectivités locales, si l'on en croit Jean-Philippe Tanguy. Ce n'est plus de l'investissement, c'est de la prestidigitation. Ça doit être ça l'argent magique. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la et mettez un pouce. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. En cliquant sur la cloche, vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir, c'est sur DonorBox que ça se passe. On ne le répétera jamais assez, vos dons constituent la principale ressource de Pure Politique. Soyez-en remerciés. On se retrouve lundi pour un Pôle Express avec une meilleure voix.